aux femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer le désert. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Bonjour, aujourd'hui émission spéciale La maternité autrement. Avec nous pour parler de ce sujet, Mercedes Marion, cadre sage-femme à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, et Aurélie Knapp, sage-femme libérale, membre fondateur et trésorière de l'association Premières Heures au Monde, qu'on intitule aussi FAM, P-H-A-M. Et puis avec moi, bien sûr, Valérie, qui va nous aider, nous accompagner pour poser plein de questions à ces deux jeunes femmes. Alors, l'histoire de la maternité de Bourgoin-Jallieu, son évolution et comment comprendre le lien entre la maison de naissance et cette maternité de Bourgoin-Jallieu.
Oui, alors effectivement, nous allons, avant de parler du projet de la maison de naissance qui ouvrira en juin, il nous semblait important avec nos invités de retracer l'histoire d'évolution et de la maternité du CHPO. Cette évolution qui comporte porte tous les ateliers, nesting, portage, massage, nouveau-né, préparation à l'accouchement avec chant prénatal, yoga, sophro, hypnose. Et puis nous ferons aussi un zoom spécial sur le nesting puisque l'ouverture du plateau technique aux sages-femmes libérales a été faite en novembre 2014.
Oui, très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution, cette évolution justement de l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu et maintenant l'arrivée à Bourgoin-Jallieu, mais cette fois-ci au Médipôle?
Alors, bon, depuis 2-3 ans, une nouvelle dynamique s'est mise en marche à la maternité. On a envie de créer et de répondre aux besoins des jeunes femmes que nous rencontrons. Donc, voilà, on s'est mis à créer des liens beaucoup plus prononcés en amont de la naissance. Donc, on a étoffé notre offre de préparation à l'accouchement en créant des choses un petit peu originales, un peu innovantes et très modernes, comme le chant prénatal, bien évidemment le yoga, la sophrologie, on en faisait déjà. Et dans quelques temps, on fera l'accouchement sous hypnose. Donc, on a voulu, bien évidemment, continuer aussi, maintenir des liens après. Donc, on crée, parce que la maman, elle est beaucoup suivie en amont. Et puis, une fois que le bébé est né, bah, elle rentre à la maison, elle se retrouve toute seule. Et on s'est dit que, voilà, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc, on s'est occupé de ces petits bébés. On fait des ateliers massage, portage, des ateliers nesting. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le nesting?
Voilà,
parce que...
Merci, c'est la première question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que le nesting?
Alors, le nesting, ça vient de l'anglais to nest. To nest, ça veut dire faire son nid. Donc, on comprend mieux le lien avec la maternité. Donc, c'est en fait préserver le capital santé de notre bébé. Alors, on vit en 2016 dans un monde qui est pollué. Hein. On sait très bien que... l'air frais de nos champs a un petit peu disparu. On connaît justement la pollution extérieure, mais on connaît moins la pollution intérieure. Dans notre intérieur, là où le bébé va passer beaucoup de temps au départ, on sait qu'il y a des polluants qui peuvent gêner le développement de l'enfant. Et notre but, c'est de préserver le capital santé de notre bébé en découvrant les principaux polluants. Et puis, avec des ateliers ludiques où on partage beaucoup de choses avec les mamans, eh bien, on va se trouver des pistes pour justement enlever les bébés de ces polluants de notre milieu intérieur.
On peut nous expliquer un petit peu mieux, parce que les polluants, il y en a beaucoup, beaucoup dans notre
intérieur.
Voilà,
ben oui.
Donc, ça peut paraître à certains auditeurs un peu flou.
Alors, par exemple, connaître déjà les trois grandes sortes de polluants, les polluants chimiques, physiques et biologiques. Alors, chimiques, c'est tout ce qu'on va respirer dans les peintures. Physique, c'est tout ce qui est onde, hein, le Wi-Fi, le micro-ondes, tout ça. Et biologique, c'est tout ce qui est moisissure. Donc, on apprend à reconnaître des détergents qui peuvent être nocifs pour l'enfant. Par exemple, nettoyer nos sols avec un produit où un bébé va marcher, va lécher par terre. Donc, on apprend à lire les étiquettes, à reconnaître tout ce qui est nocif. Et puis, on crée aussi des ateliers Ma Maison, Ma Santé où on fait des produits bio, notre lessive, nos produits ménagers. Enfin, voilà. Tout ça, est-ce que c'est un peu plus clair?
C'est nettement plus clair, mais je suis en train de me dire, nous, quand on était petits, maman lavait à l'eau de Javel, on marchait à quatre pattes sur...
Et voilà. Oui, mais du coup, maintenant, on sait que c'est peut-être pas tout ce qu'il fallait faire. Donc, venez à nos ateliers, puis il n'est jamais trop tard. Ce qui est très intéressant, c'est que on a plein de petits moyens, après, sympas, pour enlever un polluant qui va perturber notre capital santé.
Voilà. Et ce qui est valable aussi pour les adultes, hein, je présume.
Tout à fait, tout à fait. Alors, bien sûr, nous, on est centré sur le bébé, parce que le bébé, il est bien plus fragile. Hein. Il est immature au niveau de la peau, au niveau de la respiration, au niveau de la quantité de ce qu'il mange aussi par rapport à nous. Donc, c'est pour ça qu'on fait le lien avec la maternité, mais bien évidemment, c'est valable pour tout le monde.
Et justement, ça fera peut-être des enfants moins allergiques?
Tout à fait, c'est ça.
Ce que j'allais dire, d'où le fait que nous avons actuellement quand même beaucoup d'enfants, soit qui ont de l'asthme, soit qui ont de l'eczéma.
Tout à fait.
Ils sont très nombreux, je trouve.
Quand on se rend compte et quand on reconnaît tous les polluants qu'on a dans notre intérieur, où on passe beaucoup de temps, le bébé, il va passer 12 heures à la maison, confiné. Donc, un petit moyen simple, voilà. Au moins aérer deux fois par jour. Ouais,
ça, voilà. C'est le minimum syndical.
Et également, donc on aère souvent le matin, mais il faut penser à aérer le soir avant de se coucher ou dans notre pièce où on va passer 10 heures de sommeil. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qu'on apprend, des choses toutes simples, mais qu'on a oubliées en fait.
Eh bien, nous allons passer au projet et à son histoire et à son avenir peut-être. Qu'en pensez-vous ? Donc, on va présenter un petit peu le projet. Hein. C'est une maison de naissance qui va être créée à Bourgoin-Jallieu avec le soutien de la direction de l'hôpital et cela dans le cadre d'une expérimentation nationale qui permettra aux femmes enceintes ne présentant pas de pathologie, on le précise, hein, d'être accouchées par leur sage-femme dans un environnement non médicalisé ou tout au moins moins médicalisé, hein, puisque là, c'était un petit peu le débat tout à l'heure, nous en reparlerons ensemble. Mais cependant, cela reste à proximité d'une maternité. En un mois et demi, vous avez bouclé votre projet, mesdames. L'association Femmes, jeu de mots pour première heure au monde, a été créée par 8 sages-femmes qui sont dans le projet. Aurélia Dupuis, Aurélie Knaps, Alison Brenon, Roselaine Moreau, Nathalie Munch, Laurine Pernon, Gisèle Pirois, Mathilde Revolon. Et voilà, il fallait quand même les signaler, j'espère que je n'ai oublié personne. La structure créée à Bourgoin-Jallieu sera parrainée par une maison de naissance berlinoise. Le concept existe depuis longtemps en Allemagne d'ailleurs, hein, et aussi dans les pays anglo-saxons. L'ouverture est espérée donc au mois d'avril 2016. Non, ça a changé aussi.
Ce sera une ouverture pour début juin.
Début
2016.
Juin, voilà. Donc là, je vous fais juste un petit topo, on en reparlera aussi. Elle élira domicile dans un local situé au rez-de-chaussée de l'hôpital Pierre-Houdot, mais elle bénéficiera d'une entrée indépendante. Et il faut savoir que 8 accouchements sur 10 se passent bien. Donc, l'intérêt de ce nouveau mode d'accouchement est bien réel. Et en cas de problème, les femmes seront dirigées en 3 minutes chrono, 3 minutes 30 vers le plateau technique de la maternité. Les sages-femmes accouchent elles-mêmes les femmes qu'elles suivent durant la grossesse avec l'intervention d'un médecin, seulement en cas de complications ou de péridurale. Vous pensez qu'en France, on perd un peu l'essence de la naissance qui, vous le dites, est un acte de vie, un passage rituel. Et l'idée est donc de se réapproprier votre champ de compétences aussi. Et vous allez jusqu'à dire qu'un lien particulier de confiance se crée avec les patientes durant la grossesse. Et puis qu'il est de l'ordre du compagnonnage. C'est un mot bien sympathique. Alors, pourquoi avoir souhaité créer cette maison et comment vous est venue cette idée ?
Alors déjà, en resituant un petit peu le projet, ça fait déjà un peu plus d'un an et demi qu'on était 4 sages-femmes à travailler en lien de façon assez rapprochée avec la maternité donc de Pierre-Houdot, puisqu'en automne 2014, ils nous avaient ouvert leur plateau technique, donc on était 4 sages-femmes à pouvoir déjà aller sur le plateau technique accoucher nos patientes. Donc on a mis en place des habitudes de travail ensemble et un partenariat un petit peu privilégié. Ensuite, vis-à-vis de ce projet de maison de naissance, on avait donc 2 des 4 sages-femmes libérales qui étaient déjà impliquées dans différents projets de maison de naissance, une sur Grenoble et une sur Lyon. Ces projets n'avaient pas pu aboutir pour diverses raisons. Et donc, suite à ces échecs de projet, ces 2 sages-femmes sont revenues vers le centre hospitalier Pierre-Houdot et ont demandé à Madame Marion et à la direction si éventuellement il y avait des opportunités ici à Bourgoin-Jallieu. Il s'est avéré qu'on a eu un accueil franchement favorable et enthousiasme de la direction. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'il était possible de mettre en place un projet complet, de pouvoir présenter un dossier en temps et en heure au ministère de la Santé. Et ce dossier a été accepté.
Marieuse.
Voilà.
Alors, par contre, vous vous êtes fait parrainer par une maison de naissance berlinoise. Ça m'a un petit peu intriguée. Je me demandais pourquoi. Et puis, je me demandais surtout, est-ce qu'il y a une histoire derrière tout cela ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en France, les maisons de naissance, c'est quand même novateur. Donc, c'est des projets qui n'existent pas pour l'instant. C'est une façon de voir un petit peu différente. On n'a pas du tout, nous, dans nos écoles de sage-femme, été formés à cette vision des choses. Mmh. Donc, on avait aussi besoin de s'inspirer un petit peu de ce qui avait déjà été mis en place à l'étranger. L'Allemagne est un pays assez précurseur vis-à-vis des maisons de naissance. On a pu être mis en lien avec cette maison de naissance berlinoise par l'intermédiaire d'un pédiatre d'origine allemande qui travaille également sur Lyon, avec qui on échange pas mal sur nos pratiques. Donc c'est lui qui a fait le lien, c'est comme ça qu'on a pu avoir des échanges avec eux. Et entre-temps, on a aussi des liens maintenant avec une maison de naissance sur Namur en Belgique.
D'accord.
Donc voilà, on essaie de s'ouvrir un petit peu aux différentes pratiques étrangères parce qu'en France, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pareil pour nos pratiques cliniques et nos je ne vais pas dire nos protocoles, parce qu'en fait, on ne va pas avoir vraiment de protocoles, mais nos façons de travailler, on s'inspire aussi des recommandations anglaises et autres internationales.
Est-ce que la différence, elle ne se fait pas peut-être aussi par rapport à la vision qu'on a du rôle de la mère dans ces pays-là? Parce qu'effectivement, en Allemagne, en Belgique, les femmes ne retournent pas forcément travailler directement après leur accouchement. Elles sont beaucoup moins facilitées, je dirais, dans cette action. Et par conséquent, elles restent un peu plus chez elles. Est-ce que ça peut avoir une incidence ou bien ça n'a, à votre avis, par rapport à ce que vous avez vu ou...
Alors moi, je pense pas. Je pense que le moment de la naissance, c'est un moment différent d'après, une fois qu'on est devenu mère, etc. Et dans ces pays où, effectivement, le rôle de la femme est quand même incitée à rester à la maison, s'occuper de l'enfant. Autour de la naissance, on est dans un univers un petit peu différent. C'est plutôt d'un point de vue médical, là, pour le coup, que ça se pose. Ces pays, on est resté très longtemps, et on est encore dans un état d'esprit où la grossesse est normale jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une pathologie qui est dépistée, on estime que toute femme va accoucher normalement. En France, dans l'après-guerre, à partir du moment où les femmes ont en grande majorité été accouchées à l'hôpital, on a perdu un petit peu cette vision-là et on l'a plutôt retournée. C'est-à-dire que la grossesse en France est pathologique jusqu'à preuve du contraire.
C'est une maladie.
C'est quand même assez problématique. Et il n'y a qu'en France qu'on a cette vision des choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de levées de boucliers vis-à-vis de ce projet. Enfin, de ce projet, des maisons de naissance en général.
Alors, comme vous nous le disiez, il y a d'autres maisons de naissance qui vont avoir la même expérience en même temps cette année, en 2016.
Tout à fait. Donc, il y a 9 projets, donc il y a 9 maisons de naissance maintenant qui ne vont plus être des projets, hein, qui ont eu l'autorisation d'ouverture. Donc, il y en a 2 en...
Tom-tom,
voilà. Pas en métropole. Et le reste est en métropole. Les ouvertures vont s'étaler là sur l'année 2016. Ce qui est intéressant dans ces différentes expérimentations, c'est qu'elles sont toutes un petit peu différentes.
C'est ce que j'allais demander.
Voilà, donc avec pas forcément les mêmes liens avec la maternité exactement, pas forcément avec la même façon de fonctionner, pas forcément les mêmes tailles non plus de structure. Donc ça va permettre à chacun de monter un petit peu une vision des choses différentes et puis essayer à la fin d'évaluer et de comparer ce qui fonctionne bien.
Parce que c'est une étude qui va durer sur 5 ans. Et est-ce que vous allez être amené à vous rencontrer justement avec ces 9 maisons de naissance pour voir un petit peu échange d'expérience?
Alors, on a un collectif qui s'est mis en place avec les 9 maisons de naissance. On communique très régulièrement, environ une fois par semaine, par vidéoconférence, parce que on est quand même assez étalé sur le territoire géographique. Actuellement, on communique surtout sur toutes les problématiques encore qui restent en place avant l'ouverture. Donc, des problèmes différents liés, par exemple, aux assurances, des questions qu'on peut avoir justement sur nos liens avec les maternités, des questions sur l'organisation financière, etc.
Enfin, technique administrative.
Voilà, c'est ça, complètement, pour essayer de s'entraider un petit peu sur les mêmes problématiques. Ouais. Et après, effectivement, on espère aussi pouvoir mettre une évaluation commune avec des sages-femmes référentes qui vont pouvoir faire des évaluations communes et transversales. Et donc oui, on est en lien tous ensemble. Ouais.
Alors justement, vous êtes sous forme associative, donc ça comporte aussi quelques risques. Et comment vous êtes-vous soutenu? Parce que ça a un coût, un tel projet.
Alors, oui, l'argent est toujours
le nerf de la guerre.
On est bien d'accord. Donc, on est une forme associative. Au niveau soutien, on a un FIR, donc un fonds d'investissement régional, voilà, donc on aura des subventions annuelles pour permettre de faire face en partie aux frais de fonctionnement. Alors, en partie, hein. Donc, c'est un peu encore le flou un petit peu sur certains points budgétaires. Et après, au niveau des rémunérations des sages-femmes, c'est une cotation à l'acte. Hein, on est libéral, donc c'est quand on fait des actes qu'on est rémunéré.
Et comment cette association a été accueillie sur le territoire?
Alors, ça dépend de qui on parle.
Alors, on a bien compris que l'hôpital vous avait ouvert ses portes et que là, de ce côté-là, c'était assuré. Par contre, oui, est-ce que vous avez d'autres soutiens
Département,
mairie, région?
Alors, on a peu de liens pour l'instant avec tout ce qui est département, mairie, institution, parce que déjà, on n'a pas eu le temps, franchement, de se pencher sur ces liens-là. Et surtout, c'est une loi qui a été votée, donc ils ont été déjà beaucoup sollicités par les associations d'usagers avant pour que cette loi soit acceptée d'être votée. Donc, c'est vrai qu'on a peu de liens avec eux pour l'instant. Ça va venir quand on va ouvrir, parce qu'on va travailler avec eux. Sinon, au niveau usager et association d'usagers, ça s'ouvre avec un enthousiasme débordant, parce qu'il y avait eu plusieurs projets, notamment sur Lyon, qui n'avaient pas pu aboutir. Mmh. Donc, ils sont quand même très contents que finalement, dans la région, on va dire du Grand Lyon, il y ait quand même quelque chose qui ouvre. Voilà. Et puis, nous sommes en relation moins enthousiaste, on va dire, avec le corps médical, par contre.
vous allez commencer à aller sur leur territoire et ça leur déplaît.
Voilà. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. En France, la maternité est pathologique jusqu'à preuve du contraire, donc on a encore des réticences à lever.
Oui, mais alors là, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez été très claire dans votre démarche. Je veux dire, quand vous nous expliquez votre projet, vous dites bien que c'est moins médicalisé. Pour autant, vous ne prenez pas forcément pour un médecin. Donc, je veux dire, chacun sa place. Et voilà, je veux dire, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger pour eux. Et de toute façon, c'est vrai qu'une femme, elle va certainement se sentir plus proche et plus rassurée d'être dans un univers où quelqu'un s'occupe d'elle lors de son accouchement et non pas où on est là, on vous met sur un lit, vous commencez à avoir mal, on vous dit bon, on arrive dans une demi-heure et voilà, donc il y a ce côté-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins palpable pour un médecin peut-être, ce genre de...
Après, c'est une expérience, c'est une nouveauté, de la nouveauté fait peur.
Ouais, toujours.
Donc,
en France.
Toujours. Je pense que ce qui reste à souligner, c'est que il a été prouvé par différentes études internationales que c'était sécurité, que la sécurité était présente. Donc, laissez-nous faire nos preuves et puis on montrera que c'est le cas aussi en France.
Alors voilà
le
message. Laissez-nous faire nos preuves.
Et d'autant plus qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a une carence en médecins, en gynécologues, etc. Là, vous êtes peut-être la solution à apporter à toutes ces femmes qui attendent des rendez-vous qui n'en finissent pas.
Oui, il faut surtout qu'on se répartisse comme il faut les rôles. C'est-à-dire que nous, notre rôle en tant que sage-femme, c'est de s'occuper des femmes qui vont bien dans un principe de physiologie. Donc, quand on nous laisse nous occuper correctement de ces femmes-là, bah, il reste de la place justement pour les femmes qui ont besoin d'un obstétricien parce qu'ils sont indispensables tous les jours. Les médecins aussi, mais par contre, répartissons les rôles comme il faut. Comme ça, il y aura de la place pour que tout le monde soit pris en charge de la meilleure façon.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale. Toi et moi, vous avez choisi de trio. Alors, pourquoi ce choix ?
Parce que le début d'un bébé, c'est l'amour. Que voilà, quand on décide de faire un enfant, c'est 9 mois, on est dans une bulle. Et je trouve que cette chanson, elle correspond bien à tout ça.
On écoute.
Ce matin, 3000 licenciés. Grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort. On l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant. Deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin,
menace de grippe aviaire. Trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger.
Ce matin,
rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats. Fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Ce matin,
pendaison de Saddam. L'ONU crie au scandale. Le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt. Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours. On n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
C'était Toi et moi, le titre Trio. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu Tout Femme. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mercedes Marion, cadre sage-femme à l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu, et Aurélie Knaps, sage-femme libérale. Nous parlons aujourd'hui de l'association Premières Heures du Monde, une association intitulée Femmes. Alors, autre question, vous dites que pour les futures mères, cette solution présente l'avantage d'un accouchement non médicalisé mais sécurisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence du terme ?
Alors moi, j'aime pas le terme non médicalisé. Parce que les sages-femmes, on a une profession médicale, donc on surveille les femmes de façon médicale. Par contre, l'accouchement en maison de naissance permet un accouchement peu médicalisé, ou tout du moins où on médicalise le strict minimum pour permettre la sécurité de la femme et de l'enfant. Donc ça veut dire que quand on a un accouchement qui se passe bien, effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de médicalisation. Par contre, inversement, si à un moment on dépiste qu'il se passe une complication, soit pendant le travail, soit pendant la grossesse, soit après l'accouchement, on a possibilité de transférer avec notre maternité partenaire dans les structures de la maternité pour que, à ce moment-là, les femmes soient prises en charge d'un point de vue médical intensive, on va dire, pour que ça se déroule le mieux possible par la suite.
Alors justement, il y avait une petite discussion hors antenne tout à l'heure sur le fait que effectivement une sage-femme c'était essentiel, mais le médecin restait quand même essentiel aussi dans une maternité ou à proximité d'une femme qui était enceinte.
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est essentiellement le partenariat qui fait que ça marche et que ça marchera. En fait, on a bien évidemment besoin des médecins. Les sages-femmes, elles sont là dans leur cadre de physiologie. Elles sont là pour répondre aux femmes, parce que le vrai luxe, en fait, pour ces femmes, c'est quoi? C'est l'accompagnement personnalisé. C'est une femme qui a une sage-femme pour elle, qui va pouvoir la coucouner, qui va pouvoir déjà la connaître très très bien, puisqu'elle l'a suivie pendant toute la grossesse, pendant des consultations qui duraient parfois très longtemps. Donc il y a vraiment une connaissance, et c'est ça le vrai luxe, c'est le vrai accompagnement. Et puis après, c'est répondre aussi à ces mamans qui souhaitent accoucher comme elles l'entendent, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes ont leurs propres idées, ont leurs propres envies, et qu'on est là pour les accompagner. Bien évidemment, un accouchement, ça se passe bien. Mais des fois, quand ça va mal, eh ben, on sait très bien qu'il faut réagir rapidement. Hein. C'était une des conditions. Il fallait que la maison de naissance soit très proche d'une maternité, hein, pour éviter les accouchements à domicile. On sait qu'il y a certaines pathologies qui sont pas vraiment identifiables avant l'accouchement, et que quand elles arrivent, il faut répondre rapidement. Donc c'est très important d'être en lien avec les professionnels de la maternité, créer des protocoles de prise en charge, et pour que justement la maternité puisse répondre rapidement aux problèmes qu'ils peuvent avoir.
Justement, c'est pour ça qu'il est prévu dans nos échanges que toutes les femmes qui accoucheront dans la maison de naissance auront un dossier à la maternité. Elles auront vu l'anesthésiste également pour permettre justement de faciliter tout transfert, d'éviter toute perte de temps quand il y a besoin. Et ça permet d'avoir justement ce qu'on disait, un cadre sécuritaire. Et clairement, notre philosophie, c'est la sécurité en premier. Et quand on est dans un cadre de sécurité, on peut permettre de laisser le choix aux femmes. Et c'est pas l'inverse.
C'est le bonus hein, de votre idée. Pour la femme, c'est vraiment un bonus que de pouvoir se dire, voilà, je vais accoucher dans un endroit où je vais être quand même coucounée, où je vais accoucher dans les meilleures conditions. Mais de toute façon, si ça se passe mal, je sais que je suis de toute façon à proximité de l'hôpital et que quelqu'un est là pour répondre aux appels médicaux. Bien, que pensez-vous de cette vision française de la maternité et de l'accouchement? On en parlait un petit peu aussi hors antenne tout à l'heure.
Alors, moi, personnellement, si je suis intégrée dans ce, si je suis porteuse aussi de ce projet avec mes collègues, c'est qu'il y a des choses qui nous horripilent un petit peu dans la vision des accouchements en France. Alors, c'est sûr, ce qui m'horripile le plus, c'est qu'on n'ait pas le choix et surtout qu'on n'explique pas aux gens. Voilà, je pense que chacune est quand même maître de son corps et des décisions qui va avoir lieu sur leur corps est important de, que ce soit fait avec le consentement de la patiente. Et beaucoup de structures tendent vers le fait d'essayer de le faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, en proposant un accompagnement justement individuel des femmes où on connaît bien nos patientes, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on a 4 à 5 femmes à gérer en même temps, par exemple.
On revient en fait à des valeurs d'il y a longtemps, puisqu'à longtemps, on était suivi par une sage-femme chez soi et elle nous accompagnait tout au long de la grossesse. Et après, est venu l'hôpital, effectivement, où là, on a un peu cassé les liens. Alors moi, j'utilise le terme, on nous a médicalisé. Une grossesse en France, c'est un acte médical, c'est un acte où il faut mettre toutes les analyses, tout ce qu'on peut faire, ce qui est important aussi. Après, c'est pareil, dans les maisons de naissance, est-ce qu'il y aura aussi des actes médicaux, genre les péridurales, est-ce que ça aura, je pense, pas lieu, je suppose.
Alors non, effectivement.
Là aussi, ce sera des choix de femmes, quoi.
Pour la péridurale, effectivement, la maison de naissance, c'est un endroit où on accouche de façon physiologique, sans analgésie médicamenteuse. Donc, c'est-à-dire que c'est la femme qui met en place toutes les ressources qu'elle a pour gérer la douleur. Par contre, si à un moment, il y a besoin d'une péridurale pour qu'elle gère sa douleur, il y aura à ce moment-là transfert sur la maternité où elle pourra bénéficier de la péridurale.
Donc en fait, on replace un peu la femme au centre de sa grossesse, elle, d'elle-même. Et vous disiez tout à l'heure quelque chose très juste.
Elle devient active de son accouchement.
On n'est pas maître de son corps en France quand on est une femme par rapport à l'accouchement. On va peut-être le redevenir, on va peut-être se réapproprier notre corps, notre accouchement et cette maternité qu'on vit quand même assez différemment aujourd'hui.
Tout à fait. Le but, c'est que les femmes soient vraiment actrices de leur accouchement. Nous, on est là pour les accompagner au mieux dans leurs choix et dans leurs projets. C'est pour ça qu'on avait pris le terme de compagnonnage en début. Le but, c'est que quand il y a médicalisation quelconque, c'est d'avoir le temps d'expliquer à la femme en quoi ça consiste et d'avoir reçu son accord. Et ça, effectivement, quand c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 8-9 mois, c'est quand même assez facile. Est-ce que les patients, en conclusion, nous font également confiance parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qu'on les connaît bien et donc la confiance est réciproque, donc on arrive à faire accepter aussi des actes médicaux qui sont justifiés.
Alors justement, vous êtes cadre à l'hôpital Père Oudot, alors quelle est votre vision à vous par rapport à une jeune sage-femme libérale? Est-ce que là vous aussi, puisque vous êtes venue aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez aussi qu'on aille vers cette solution d'accouchement, je dirais, sans douleur, entre guillemets, puisqu'il y a des tas d'autres méthodes que les péridurales pour accoucher sans douleur?
Alors nous, à l'hôpital, ça fait un petit moment déjà qu'on s'est posé la question, hein, justement quand on a ouvert le plateau technique aux sages-femmes libérales, justement. Donc on a laissé rentrer des sages-femmes libérales avec toute une autre manière de faire qui nous a quand même interpellés. J'allais dire, à l'hôpital quand même... On travaille et on s'occupe des gens quand même, on leur enlève pas le pouvoir. Il faut quand même, voilà, c'est pas deux camps qui s'affrontent, hein. C'est bien ça. Et dans les hôpitaux, il y a vraiment du bon boulot qui est fait, et souvent uniquement par les sages-femmes, puisqu'on appelle le médecin en cas de problème. Cette vision qu'apportent les sages-femmes libérales, c'est un plus, et ça perd. Enfin, pour nous, ça nous permet en tout cas de nous poser des questions pour pouvoir changer nos pratiques. Mais bien évidemment, nous, on fait 1200 accouchements par an, donc on sait qu'on a des personnes qui ont plus de pathologies, donc on est obligé de répondre aussi à ça. Mais nous, c'est vrai que cette rencontre avec les sages-femmes libérales, le fait qu'on se pose des questions, qu'on interpelle les médecins, hein, parce que du coup, le chef de service, le chef de pôle, qui sont des médecins, sont partie prenante également de tout ça, même si ça leur pose des questions. En tout cas, nous, on accepte de se les poser, ce qui est déjà beaucoup, hein, dans notre manière d'être en France, où l'hospitalocentrisme, c'est ce qui est proposé aux patientes. Donc, mais nous, du coup, on avance aussi. On a aussi également un programme Une femme, une sage-femme, où on a une sage-femme hospitalière qui fait exactement pareil que les sages-femmes libérales. qui accompagne ses patientes, qui vient pour les accoucher. Donc oui, nous, on est. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a permis l'ouverture de cette maison de naissance, c'est qu'on était déjà un petit peu prêt en amont. Voilà.
Donc, je pense qu'on a, on a bien fait le tour de la question maintenant, mais juste une petite question. On sait qu'elles vont être sécurisées médicalement, on sait qu'elles vont avoir un accouchement privilégié avec une écoute et une attention, mais combien de temps la maman va-t-elle rester à la maternité?
Alors déjà, elles ne sont pas à la maternité.
Oui, pardon, tac, ça y est, ouf, touché, coulé, d'accord.
Donc, elles sont dans la salle de la maison de naissance.
Voilà.
Alors, bah, elles vont rester quelques heures après l'accouchement. Dès qu'elles se sentent prêtes à regagner leur domicile, elles vont regagner leur domicile avec leur conjoint, au sein de leur propre famille. Et la sage-femme qui les a suivies les accompagnera jusqu'à chez elles ou passeront quelques heures après. Et puis, il y aura une visite quotidienne les premiers jours.
Alors moi, il y a juste une chose qui m'interpelle. Je suis maman de trois enfants et par conséquent, je me pose la question naturellement. Vous n'avez pas peur qu'une maman qui va accoucher de son troisième enfant soit un peu... plus que débordée lorsqu'elle rentre à la maison, parce que c'est quand même de mémoire très fatigant de rentrer. Alors je me vois, je sais pas, aujourd'hui je me pose dans ma position d'il y a quelques années, me dire je rentre à la maison tout de suite et je retrouve tous mes enfants et ça doit pas être facile quand même.
Alors c'est une question qui va se poser en aval.
D'accord.
Enfin en amont, pardon, même plutôt. Vu que c'est un projet d'accouchement qui est une démarche du couple qui va se présenter assez tôt dans la grossesse, parce que c'est des femmes qu'il faut qu'on ait suivies quasiment toute la grossesse. Hein, on les voit avant le sixième mois de grossesse. C'est une question qu'on va leur poser, c'est-à-dire votre retour à la maison va se faire de façon précoce. Comment allez-vous vous organiser? Est-ce qu'il y aura des aides familiales? Est-ce qu'il y aura une amie qui va être présente? Est-ce que vos enfants aînés pourront être pris en charge chez des grands-parents? Voilà, c'est quelque chose qui devra être organisé pour effectivement permettre ces retours précoces à la maison, parce qu'il est hors de question qu'ils reviennent et que trois heures après, ils sont en train de faire le ménage ou la cuisine pour la fratrie, ça c'est sûr.
Mais de toute façon, on est arrivé à un terme, enfin, si je me souviens bien, c'était un jour et demi, voire trois jours maximum.
Trois jours maximum.
Ouais. Enfin, moi, j'ai personnellement pareil, trois jours. Donc trois jours, entre trois heures et trois jours.
Alors dans le bassin bergalien, les hospitalisations sont quand même un petit peu plus longues. On est plutôt sur du quatre jours. Hein.
D'accord.
Donc après, effectivement, c'est quelque chose qui se prépare en aval. On sait exactement ce qui va se passer sur le suivi avant, après, pendant et que la personne ne soit pas abandonnée.
Et surtout,
mais ça peut être plus pratique aussi parce qu'après, on retrouve la cellule familiale. S'il y a quelqu'un pour aider, ça peut être moins traumatisant pour les enfants qui attendent le petit frère ou la petite sœur qui arrive. Enfin, c'est une autre façon de voir les choses, je suppose. Une autre organisation. Mais effectivement, qu'ils soient bien préparés avant la naissance de l'enfant.
C'est des couples qui sont demandeurs et actifs de leur projet. Donc
ils savent ce qu'ils veulent faire.
Tout à fait. Ils y pensent et c'est quelque chose qui a été anticipé, qui est réfléchi et qui correspond à l'organisation de vie.
Alors ce que je vous propose, on va faire une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, vous avez choisi Du courage par la grande Sophie.
Oui, alors parce qu'il en faut du courage pour porter des projets, pour avancer, pour répondre, pour faire un bébé. Voilà. Voilà, c'est bien que ce soit une femme qui le dise, parce que oui, je pense que les femmes, elles ont beaucoup de courage.
On écoute.
Écoutez, mesdames, les femmes ont beaucoup de courage.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. Tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage. Du courage, du courage, du courage. que les bras m'en tombent comme le petit pousset des cailloux. J'en ai trouvé, mais la question que je me pose sans cesse, où je pourrais trouver du courage. Du courage, 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 du courage. Tu vois, c'est pas mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout du doigt de la face et l'espoir d'aller chercher plus loin en ayant peur de rien.
C'était Du Courage par la Grande Sophie. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre émission Tout Feu, Tout Femme. Et nous parlons aujourd'hui de la maternité autrement. Et nous sommes en compagnie de Mercedes Marion, cadre sage-femme à l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu, et Aurélie Knapp, sage-femme libérale et membre fondateur de l'association Premières Heures au Monde. Alors, on continue notre... Cette fois-ci, on va parler du métier de sage-femme.
Voilà, parce qu'on a abordé quand même bien à fond le projet. Et moi, je pense qu'il était important de mettre un petit point d'honneur sur ces sages-femmes qui, quand même, sont à nos côtés pendant un nombre de mois certains. Le métier de sage-femme, c'est un très beau métier, mais il est difficile. Et nous avons voulu creuser un peu plus le sujet. Alors, tout d'abord, moi, je me suis intéressée au nombre d'hommes sages-femmes, parce que oui, il y a des hommes sages-femmes en France. Ils sont moins de 300. Mais ils sont là. Et nous leur rendons hommage ici pour leur dévouement. La profession de sage-femme est ouverte aux hommes depuis 1982. Et d'ailleurs, on appelle les hommes qui exercent ce métier des mailloticiens, pâturologues, accoucheurs. C'est terrible, ce sont des mots barbares. Il semble pourtant que de plus en plus d'hommes souhaitent effectuer ce métier. Et même si elles demeurent surprises de rencontrer un homme pratiquant cette profession, les femmes commencent à accepter petit à petit qu'un homme s'occupe de leur grossesse. Et sur la France, on dénombre 20 040 sages-femmes, dont 82% de salariés et 18% de libérales. On va parler un petit peu de la place de la femme dans une maternité, des difficultés qu'elle rencontre et au sein d'un établissement en général et de sa vie de famille pour la sage-femme. Alors, depuis combien de temps êtes-vous sage-femme, mesdames ?
Oula, ben moi, depuis 91. Fait, je compte plus, compter.
Bon, d'accord, ça c'est
25 ans, oui, oui. Je suis vieille sage-femme.
Moi, j'ai depuis 2009, donc ça va faire 7 ans.
Alors, combien de bébés en 25 ans?
Eh bien, si je vous dis que je n'ai pas compté...
Ça non plus, on ne compte pas. Hein.
Donc, on a dit 1200 pour l'année, 1200 par 25, voilà. Vous faites le calcul, c'est bon.
C'est un super beau métier de mettre au monde des enfants, quand même.
Ah oui, c'est un côté... énergisant, magique, la salle d'accouchement, c'est toujours très, très, très émouvant. Et oui, non, c'est sûr, c'est un beau métier.
Et donc, pourquoi vous avez choisi ce métier? Question piège.
Moi, je pense que j'étais très attirée par la maternité. C'était quelque chose qui était ancré en moi. Voilà. J'ai eu des enfants après, très tôt. Je pense que c'était quelque chose qui m'intéressait dans ma vie de femme. En tout cas, la maternité, c'était important. Donc, voilà. Et je voulais aussi une profession médicale. Je n'ai pas fait médecine. Mais du coup, sage-femme, c'était un bon compromis. Voilà, je ne me sentais pas infirmière. J'avais envie d'être libre dans mes actes et dans mes choix et être indépendante. Donc, voilà. C'était un bon compromis.
Je peux me permettre de vous demander combien vous avez d'enfants ?
Trois,
d'accord. On abordera le problème après, justement.
Et quel changement dans votre métier de sage-femme en 25 ans ?
Eh bien...
Ça s'est plus médicalisé ou pas du tout ?
Non, pas tellement en fait, pas tellement. J'allais dire que maintenant, les choses évoluent justement dans l'autre sens. On a fait beaucoup de médicalisation, mais moi, la super médicalisation comme on peut connaître, j'ai fait mes études à Lyon, je ne voulais pas travailler dans des grands centres de niveau 3 où tout est protocolisé, où la personne elle arrive, elle a tel symptôme, donc c'est ça. Non, moi j'avais envie de faire mon petit... Donc j'ai toujours travaillé dans des maternités de niveau 1 où on est assez libre dans nos actes, puisque le médecin, il y a un véritable partenariat avec le médecin, qu'il n'est pas toujours présent, donc il faut savoir se débrouiller en situation compliquée, et bien évidemment il faut savoir quand les appeler, mais en même temps quand tout va bien, on est libre de faire comme on veut, dans toutes les recommandations professionnelles, hein, bien évidemment. Donc voilà, moi j'ai toujours travaillé dans une petite maternité, une maternité de niveau 1, et ça m'allait très bien.
Alors vous avez choisi d'être sage-femme libérale. Mmh. Pourquoi ce choix ? Et depuis combien de temps ?
C'est un concours de circonstances. Ça fait 3 ans que je suis sage-femme libérale, donc j'ai fait à peu près moitié en hospitalier, moitié en libéral. C'est un concours de circonstances. J'ai suivi mon conjoint, toujours en histoire d'homme. J'ai pas eu une mutation dans un établissement public en arrivant dans la région. J'ai eu une opportunité en libéral qui s'est présentée, donc je me suis installée en libéral. Et puis d'opportunité en opportunité, on a réussi à faire ouvrir le plateau technique, donc ça m'a permis de retourner en salle de naissance et puis de continuer à faire des accouchements. Et puis, c'est quand même... Moi, ce que j'aime dans mon travail actuellement, c'est la globalité. Je suis vraiment une femme du début jusqu'à la fin. Je fais même du suivi gynécologique et de la contraception parce que j'aime bien, quand je suis une patiente, la suivre vraiment de A à Z. Et donc, les opportunités font que maintenant, il y a la maison de naissance. Et puis...
Combien d'enfants pour vous ?
Un petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans, là.
Alors justement, vous avez des enfants, c'est pas facile à gérer. Quelles sont les difficultés des métiers et le fait de travailler en horaire décalé, est-ce que c'est pas plus compliqué pour votre vie de famille? Comment ça s'organise? Comment vous le vivez tout ça?
Oui, non, c'est pas... Alors ce qui est difficile, c'est les horaires de nuit, c'est bien évidemment, on accouche tout le temps, hein, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, donc les jours fériés, voilà, les Noëls quand on les passe à la maternité. Moi, ce qui me posait plus de soucis, c'était les nuits. C'est quelque chose que je trouve très fatigant, les nuits, parce que voilà, on a un rythme qui est décalé, mais c'est vrai que... dans la journée, le lendemain, on est plus libre pour s'occuper de ses enfants. Donc, en fait, c'est plus fatigant, mais en même temps, on a quand même du temps pour s'occuper de nos enfants.
Moi, en libéral, c'est un petit peu différent parce que, conclusion, j'ai mon planning de consultation la journée et je pars un peu à l'improviste sur un accouchement. C'est ça qui est un petit peu difficile à gérer, c'est l'imprévu. Ouais. C'est l'imprévu, d'un seul coup, dans 30 secondes, on pose le téléphone et c'est bon, il faut tout planter pour partir. Donc, ça nécessite.
On le met dans son lit, on l'enferme dans le placard.
On le met à la poubelle. En essayant de rester dans la bien-traitance.
On a un conjoint. Hein,
ouais, on a un conjoint
qui doit assumer.
Voilà, qui essaye d'assurer. On essaye de tisser un réseau aussi autour avec une super nounou.
Ouais.
Voilà, et ouais, faut tout, voilà, des parents quand c'est possible. Faut toujours avoir un plan B. Être une pro de l'organisation du planning, mais bon, ça, je pense que tout le monde a ses problèmes de planning à gérer, tout le monde fait un peu comme il peut, ouais. Donc, non, ça, forcément, notre travail a quand même forcément une implication sur notre vie personnelle, et effectivement, faut quand même autour de soi avoir des gens qui sont soutenants, parce que sinon, c'est pas possible.
Vos types de planning, c'est quoi un exemple type d'une semaine, par exemple, pour donner un petit peu aux auditeurs l'idée de... Par exemple, moi, je vais prendre un exemple dans l'hôtellerie, on va travailler 3 matins, 2 soirs, 1 nuit. Vous, ça fonctionne comment?
Alors, à l'hôpital, ça fonctionne en garde. Donc, c'est des gardes de 12h30, donc de 7h du matin jusqu'à 19h30. Alors, souvent, ça déborde, hein, bien évidemment. Ou de 19h jusqu'à 7h30 le lendemain matin. On fait à peu près, en moyenne, 3 gardes par semaine. Voilà. Donc, jour, nuit, nuit, quelque chose comme ça. Ou jour, nuit, repos, nuit. Ou jour, jour, jour. Voilà.
Donc, du coup, vous avez une amplitude après dans la semaine qui est quand même assez large.
Voilà,
ce qui
on a
permet
plus
de
jours de repos. De
faire
voilà.
Des courses, le ménage, d'occuper les enfants.
Donc, c'est vrai que quand on n'est pas à la maison, on n'est pas à la maison. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les devoirs soient faits en rentrant. Sinon, c'est compliqué. On est moins...
moins sereine.
Moins sereine et puis moins attentif avec l'enfant. Il faut qu'ils comprennent vite ces jours-là. Et puis sinon, bah, quand on a du repos, ça permet de faire les courses en dehors des samedis où il y a plein de monde. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients partout, mais ça, c'est toute profession, j'imagine. Mmh. Mais par contre, ces horaires jour-nuit, c'est un petit peu fatigant.
Alors, moi, je suis tentée de vous poser une question. Quel serait votre plus beau souvenir en tant que sage-femme, l'une et l'autre ?
Ah ben moi, c'est quand je m'en... Enfin, bon, j'en ai plein, mais c'est, je m'en rappelle d'un accouchement qui s'est passé très très vite avec un bébé qui est né en état de mort apparente. Alors, ça s'est bien terminé, c'est pour ça que c'est un beau souvenir, vous allez voir. Et donc, on s'est occupé de cet enfant et il a poussé son premier cri et on a appelé le médecin. Mais bon, on s'est débrouillé, on était deux sages-femmes, on s'est débrouillé. Il y avait le papa et la maman, et le papa, il m'a pris dans ses bras, il m'a remercié, et c'est des gens que je revois régulièrement, et qui viennent toujours me voir. Maintenant, le petit, il a 5 ans. Bon, lui, il se rappelle pas de moi, mais voilà, quand je vois le regard de ce couple, bon, ça me fait toujours un beau souvenir. C'est vraiment un très beau souvenir.
Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, puisque quand même vous avez 25 ans de carrière, de voir des enfants...
Merci de le rappeler.
De voir des enfants... J'ai pas dit quel âge, ironique. Parce qu'elle peut être très jeune à 25 ans.
Tout à fait.
Est-ce que ça vous est arrivé de voir de mettre au monde des enfants de personnes que vous auriez déjà fait naître?
Ah oui, bah oui, c'est vrai.
Parce que ça aussi, alors, ça doit être.
Oh, zut. C'est vrai, ça c'est une sacrée question, mais oui.
C'est un peu comme les institutrices qui des fois revoient les enfants des enfants.
Oui, ça m'arrive déjà depuis 2 ou 3 ans. Ouais. Bon, ça fait drôle.
Excusez-moi. Mais... Et vous, est-ce que vous auriez un joli souvenir?
Moi, de mes beaux souvenirs, c'est un accouchement récent. Donc, je suivais une femme que je devais accoucher sur le plateau technique de la maternité. J'étais en ligne avec Mercedes au téléphone. On discutait de diverses choses, justement, sur l'ouverture de la maison de naissance. Et puis, donc, j'ai raccroché en lui disant, bah, écoute, on se verra tout à l'heure à la maternité. Je pense qu'il va falloir que je parte. Donc, effectivement, je suis partie voir ma patiente à domicile. Et puis, quand je suis arrivée, elle commençait à souffler pas mal. Donc, généralement, j'ai l'habitude d'examiner mes patientes avant de partir pour voir si c'est vraiment le début du travail ou pas et qu'on y aille pour une bonne raison. Donc j'examine et puis là je la regarde et je fais « Non, on va pas partir ». Donc j'ai regardé son mari, j'ai fait « Écoutez, il y a une boîte dans mon coffre de voiture, vous allez la chercher ». Donc il est parti chercher ma boîte d'accouchement que j'ai toujours dans mon coffre de voiture. Et effectivement, 10 minutes après, il y a la petite fille qui est née à la maison, coiffée, avec sa poche des os au-dessus de la tête.
Un spectacle,
assez magnifique, voilà.
Ça doit être émouvant comme chose.
Ah, c'est extrêmement émouvant, là, surtout que c'est pas prévu, c'est complètement inopiné.
Et ça se passe bien.
Et ça se passe bien, de toute façon, un accouchement inopiné, ça se passe bien. C'est quand même exceptionnel que ça se passe pas bien. Et donc, ça, un peu, quelques minutes après l'accouchement, je rappelle Marion, je lui dis bah, écoute, on va venir un peu plus nombreux que prévu, finalement, à la maternité.
Moi, c'est des jolies expériences.
Voilà, je pense que vous avez des choses à rajouter concernant ce projet, concernant...
Moi, j'avais peut-être envie de rajouter, parce que vous en avez parlé à un moment donné, qu'une sage-femme, ça peut être aussi autre chose qu'une personne qui prépare à l'accouchement, puisque vous avez aussi une formation qui vous permet de suivre des femmes en dehors des périodes de grossesse. Et c'est peut-être important de le rappeler.
Tout à fait.
Oui. Tout à fait. Nos compétences de sage-femme permettent de suivre les femmes toujours dans la physiologie, quel que soit leur moment de vie de femme. Donc, on suit les grossesses, effectivement, on fait les accouchements, mais depuis 2009, on a aussi les compétences pour faire le suivi gynécologique de prévention, donc l'examen annuel avec le frottis, traiter une petite mycose, enfin quelque chose qui nécessite une consultation assez rapidement, mais qui n'est pas vraiment quelque chose de pathologique, et aussi de prescrire toutes les contraceptions et de les poser, donc tout ce qui est contraception orale, type pilule, implant, stérilé.
Voilà. On prend juste rendez-vous.
On a un rendez-vous en 3-4 jours. Ça permet d'avoir une consultation et d'avoir un suivi gynécologique de qualité. Et que, comme pour une femme enceinte, dès qu'on dépiste quelque chose qui n'est pas normal, eh ben, on adresse au gynécologue qui prend en charge la pathologie.
Et ça évite justement de se dire bah non, j'ai pas de rendez-vous et on n'y va pas. On fait beaucoup de campagnes justement contre les détections de cancer et je pense que c'est important aussi en tant que femme de rappeler que ces gestes-là sont importants aussi.
Ça permet d'avoir un accès rapide aux soins.
Tout à fait, oui. Donc, mesdames, prenez bien note de la double casquette que ces dames sages-femmes peuvent avoir.
Eh bien, je vous remercie. On arrive au terme de cette émission. On va peut-être pouvoir faire quand même une dernière pause musicale.
Quand même. La nouvelle génération qui arrive et qui et on sera là pour elle. Donc
Jane. Alors, Jane, c'est qui Jane?
Alors c'est une jeune artiste chanteuse de 23 ans que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et qui m'a vraiment bluffée dans sa maturité, dans sa musicalité. Et je me dis voilà, les jeunes ont vraiment des choses à nous dire, donc écoutons-les.
Beau message de fin.
Merci.
Eh bien, nous vous remercions. C'était Mercedes Marion, cadre sage-femme à l'hôpital Perrudo à Bourgoin-Jallieu, et puis Aurélie Knaps, sage-femme libérale, membre fondateur de l'association Premières Heures au Monde, une très jolie association. Eh bien, merci. Et puis, on espère que cette nouvelle association, tout va bien se passer, cette maison des naissances, que vous allez avoir plein de petits bébés.
Que vous serez soutenus.
Et que vous serez bien soutenus, surtout, hein, et que c'est un projet qui sera pérenne. Et on espère que ça sera une autre solution pour les mamans du territoire. Merci.
Bonne
merci
route.
Beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, chers auditeurs.
Blackburn, I've so long without you, boy.
Le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne l'allez pas,